France Info.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et c'est à peine remis des émotions du week-end de sport à gogo, hein, de farandole de politique et un chariot de dessert de cérémonie cinématographique qu'ils sont venus s'installer autour de la table des Informés de France Info, où ce soir nous trouvons la députée de Moselle et porte-parole de Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, bonsoir.
Bonsoir.
Également Michel Urvois de Ouest France, bonsoir.
Bonsoir, Thomas.
Nous trouvons également le sociologue Nicolas Framont. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous avez d'ailleurs une nouvelle casquette, hein, puisque vous êtes co-rédacteur en chef de la revue Frustration.
Tout à fait.
Ça, exactement. Voilà, on continuera à en parler. Et nous retrouvons bien sûr François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, quatre débats ricochants sur l'actualité. Hein, les abus de la chirurgie esthétique, réalité ou fiction, un enfant. Alors attendez, excusez-moi, je crois qu'on s'est trompé en fait, parce que depuis qu'on fait faire nos fiches, on les fait faire par l'Académie des Oscars. En fait, c'est n'importe quoi. Donc en fait, voilà. Bref, on va ce soir parler de la politique française, bien sûr, de l'agriculture, de la rémunération patronale. Mais pour l'instant, dans Les Informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Demain à Paris commence la Fashion Week et François Fillon a déjà sorti son accessoire de mode pour les prochains mois. Ce sera le treillis et la tenue camouflage. En effet, le candidat de la droite a dénoncé dimanche sur Facebook un climat de guerre quasi civil, oui, rien que ça, hein. Suite aux perturbations de son meeting, de celui d'Emmanuel Macron dans le Var et ce week-end donc de Marine Le Pen à Nantes, où des bus de militants frontistes ont été attaqués. Également, il parle des violences en Seine-Saint-Denis les semaines passées. Ce matin, en visite à Meaux, François Fillon a réitéré ses propos sans reprendre le terme de guerre civile et préfère désormais parler de, je cite, passivité du gouvernement. Mais le terme est resté assez pour faire réagir ce matin le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas.
Franchement, quasi guerre civile. Hier, il nous disait coup d'État institutionnel. Et demain, il nous dit quoi? Extermination des programmes, holocauste des candidats.
Voilà, donc c'était le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui ne mâche pas ses mots. Aurélie, quand vous avez entendu ce terme, quasi guerre civile en France, pour vous, est-ce que ça vous semblait disproportionné, vous, comme vous le dites, comme le ministre de la Justice, c'est-à-dire, de toute façon, après ce qu'a dit François Fillon, en parlant aujourd'hui de coup d'État institutionnel, on continue.
Non, mais le problème, c'est qui prononce ces mots, c'est François Fillon. Et donc, il est aux abois. Il essaye absolument de sortir, je ne sais pas si c'est le costume de camouflage, mais enfin, c'est surtout le parapluie, pour éviter toutes les casseroles qui lui tombent dessus en permanence. Et dès qu'il se déplace, il ne peut plus se déplacer. Il ne peut plus aller dans des émissions de télévision ou de radio. Pourquoi ? Parce que il n'a pas répondu des lourdes accusations qui pèsent sur lui et qui minent profondément sa campagne électorale. Donc après, il est excessif. De toute façon, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et puis, les Français ne sont pas dupes et ils savent que tout ça, c'est une opération. Tentative d'opération de diversion.
Alors, François Dorcival, est-ce qu'on peut mettre quand même, c'est ça qui est un petit peu étonnant dans le propos de François Fillon, c'est-à-dire qu'il met au même niveau des bus caillassés, des violences en Seine-Saint-Denis, et même des gens qu'il poursuit avec des casseroles, c'est pas le même niveau de violence.
Il ne dit pas que c'est le même niveau. Non.
Il compare quand même.
Il décrit un climat. Il décrit un climat. Quand vous parlez des bus caillassés, c'est vrai, mais ce sont des bus caillassés qui arrivaient vers un meeting, et le meeting lui-même a été l'objet d'une manifestation la veille, qui était une manifestation importante, qui a dégénéré, avec les fameux 200 casseurs qui mettent le feu aux bagnoles, etc., comme toutes les manifestations pour le jeune Théo ont dégénéré, ou la plupart d'entre elles, comme nous avons eu d'autres manifestations depuis 6 mois, ça n'arrête pas, alors que nous sommes dans un état
de violence. Vous mettez, c'est la même chose pour vous. C'est les mêmes manifestations.
Non. Mais personne ne dit que c'est la même chose. Bah, ce qui est du domaine de ce qu'il appelle la quasi-guerre civile, c'est en effet une violence brute qui enflamme toute manifestation désormais.
Alors, Michel Urvois.
Moi, je crois que François Fillon, tout simplement, essaie de tirer parti de l'actualité pour revenir sur un terrain qui lui est cher et qui peut lui permettre de recoller à son électorat, qui est celui de la sécurité. Derrière l'expression, qui est évidemment exagérée, il y a deux choses très différentes, à mon sens. Il y a le chahut des meetings, qu'on retrouve dans toutes les campagnes, qu'on retrouve dans toutes les réunions.
Oui,
François Hollande lui-même s'est pris prix de la farine, figure, il n'y a pas très longtemps. Enfin bon,
voilà. Je me souviens de Manuel Valls également en campagne.
Voilà, donc il y a des choses comme ça. Elles sont pas recommandables, mais elles sont pas non plus. C'est pas la fin du monde, quoi. Et il y a des choses plus graves. Ce qui s'est passé à Nantes est beaucoup plus grave. Mmh. C'est plus grave de deux points de vue. C'est parce que c'est une volonté d'interdire l'expression à quelqu'un, qu'on le veuille ou non, qui représente 30% de l'opinion française.
Et vous parlez de Marine Le Pen.
Je parle de Marine Le Pen. Si on veut interdire cette expression-là, il faut interdire le parti. Le Front National est légal, il existe, elle a le droit de s'exprimer. Alors, deuxièmement, je pense que procéder de cette manière-là, c'est-à-dire la victimiser, je pense que c'est la meilleure manière de lui faire de la publicité et de la faire monter dans l'opinion.
Aurélie Chipetti.
Non, il n'y a pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas des manifestations pour interdire, c'est une manifestation pour montrer une opposition aux thèses qui sont véhiculées par Marine Le Pen et par le Front National. Et ça fait partie de la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Que ces manifestations dégénèrent, c'est regrettable comme est regrettable toute violence. Je rappelle que la famille, par exemple, de Théo et Théo lui-même, après la grave agression dont il a été victime, ils ont appelé au contraire au calme.
Donc on ne peut pas dire que de la famille.
Non, mais on ne peut pas dire que toutes les manifestations de soutien à ce garçon qui est une victime soient dégénérées.
Toutes ces manifestations ont
surtout,
dégénéré.
Ne soyons pas. Enfin, je veux dire, on vit dans le même pays, je crois. Personne ne peut raisonnablement dire qu'aujourd'hui, il y a un climat de guerre civile en France. Nous sortons d'une période nous l'espérons, d'une période très dure en ce qui concerne les attentats, le terrorisme. Il y a des manifestations et dans une campagne électorale, on sait que c'est une période de tension politique exacerbée, mais quand même, sachons raison garder.
Alors, dans un instant, je vais vous donner la parole, Nicolas Framont, dans un instant. Mais l'info à 20h10, c'est Pierrick Bonhomme.
L'ADN de trois membres de la famille Troidec retrouvés à Orvault dans la banlieue nantaise, celle du père, de la mère et du fils, mais pas celui de la fille. Les enquêteurs ont analysé les traces de sang découvertes dans le pavillon familial. La famille a disparu depuis le 16 février et la police s'intéresse notamment à la personnalité du fils, décrit comme fragile psychologiquement et dont la voiture a disparu. Une information judiciaire vient d'être ouverte. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu'à l'intérieur. Démission ce soir au sein de l'exécutif. Axel Le Maire, secrétaire d'État chargé du numérique et de l'innovation, rend son tablier. Elle quitte le gouvernement pour se consacrer à la campagne de Benoît Hamon. Information du service politique de France Info. Concrètement, Axel Le Maire doit se consacrer à la partie numérique et innovation du projet du candidat du Parti Socialiste. Elle était au gouvernement depuis 2014. Ses fonctions vont revenir à Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie. Donald Trump persiste et signe. Le président américain veut augmenter les dépenses militaires de 54 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 9%. C'est ce qu'indique ce soir un responsable de la Maison-Blanche. La semaine dernière, Trump voulait enrichir l'arsenal nucléaire de l'armée américaine. 7 départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange par Météo France en raison du risque de vagues submersion, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Finistère, la Vendée et la Loire-Atlantique. À partir de la nuit prochaine jusqu'à 21h demain soir, attention, les vagues pourront atteindre jusqu'à 8 mètres sur le littoral.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette expression de François Fillon qui fait débat depuis à peu près hier soir, depuis plus de 24 heures maintenant, cette expression de quasi-guerre civile pour évoquer les perturbations dans les meetings et notamment les violences à Rennes à propos d'un meeting de Marine Le Pen. Mais il englobe également les différentes violences qu'on a pu voir dans les villes de périphérie ces derniers temps. Nicolas Framont, ce que dit Bernard Cazeneuve, lui, il a répondu à François Fillon puisqu'il était directement mis en cause. Il dit, Bernard Cazeneuve, je peux comprendre que certains candidats soient tentés de dissimuler derrière des polémiques une difficulté à faire campagne. Pour vous, on est là-dedans, justement, avec François Fillon?
Oui, avec François Fillon, on a une sorte de mouvement de citoyens qui, voilà, il y a eu différents cas. Hein, dans le cas du chahut dans ces meetings, c'est pas des choses très graves. Hein, c'est des gens qui viennent et qui tapent sur des casseroles. Ouais. C'est plutôt rigolo. Ouais. Bon, mais alors qu'évidemment il est très mécontent de ça, il est dans une position difficile et il cherche à retourner la situation. Peut-être qu'il cherche aussi à avoir un effet, vous voyez, comme Sarkozy avec les émeutes de la gare du Nord en 2007, c'est-à-dire bon bah on sait que des événements comme ça, un climat de guerre civile, ça profite traditionnellement aux candidats de droite. C'est quand même une vieille stratégie assez éculée qu'il essaie de faire renaître de ses cendres, vous voyez. Ouais. Donc on sent qu'il est quand même aux abois.
Hein. François Lorsibal.
Quand vous dites éculé. C'est quand même parce qu'évidemment on a eu des émeutes infiniment plus graves encore en 2005.
Bien sûr, oui.
Est-ce que c'est une stratégie éculée de rappeler la dangerosité qu'il y a là? Or, celle-ci se reproduit. Je signale que François Fillon n'était pas le candidat de la droite il y a un an, quand, contre la loi El Khomri, vous avez eu 9 très grands défilés qui, pour la plupart, ont donné lieu à des bavures extrêmement graves, dont une voiture de police incendiée dont les policiers sont sortis. Mais, c'est pour ça que dire vraiment... on ressort une stratégie éculée, moi ça me paraît excessif.
Monsieur Dorcival voudrait qu'il n'y ait plus aucune manifestation en France.
Non.
Je rappelle que la loi El Khomri...
Regardez les images de Nantes.
Mais la loi El Khomri, vous mettez en parallèle...
Le rapport, c'est de ce dont on parle.
Vous mettez en parallèle des casseurs avec des manifestants qui expriment des positions politiques. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, si on veut pousser la théorie du complot jusqu'au bout, on pourrait se demander à qui sont utiles les casseurs. Ça ne sert sûrement pas à la gauche aujourd'hui. Donc voilà, moi je peux, on peut continuer comme ça hein, dans la surinterprétation. Ce que l'on peut constater, c'est que nous sommes dans une période où ce climat des affaires qui pollue la campagne présidentielle par la faute de responsables politiques qui ont eu des comportements, en tout cas, qui aujourd'hui font qu'ils sont aux prises avec la justice. Et je pense à François Fillon et à Madame Le Pen, puisque tous les deux aujourd'hui sont sous le coup de graves soupçons. Ça, c'est une violence qui est faite à la démocratie, une violence bien réelle.
Alors, Nicolas Framont.
Oui, je voudrais aussi revenir sur ce terme de guerre civile, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a déjà parlé de blitzkrieg social à propos de son programme économique, et dans le cas Madame Le Pen, c'est quelqu'un qui tient des propos extrêmement violents. Donc, il ne faut pas oublier aussi que si climat de guerre civile il y a, ces gens-là, ils contribuent largement pour les propos pour le moins graves qui sont tenus par Madame Le Pen ou pour le moins agressifs envers les classes populaires, les classes laborieuses, qui sont tenues par M. Fillon.
Alors justement, je voudrais qu'on parle de Marine Le Pen, ça tombe bien, je saisis à chaque fois au vol. Ouais. Alors à propos des crans de fumée, puisque c'est vrai que le week-end a été un vrai festival en la matière, puisque Marine Le Pen, on vient d'en parler, a de nouveau crié au complot concernant elle, alors l'affaire des attachés parlementaires frontistes au Parlement européen, soupçonnés d'emploi fictif. Si elle est élue, elle en a parlé, elle souhaite revoir la formation des juges, exigera un brevet de patriotisme des hauts fonctionnaires. Et surtout, on va l'entendre, ne les oubliera pas, Marine Le Pen.
Dans quelques semaines, ce pouvoir politique qui n'a plus rien à perdre ni de compte à rendre aura été balayé par l'élection. Mais ces fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales car elles sont totalement illégales. Et ils mettent en jeu leur propre responsabilité.
Voilà, Marine Le Pen, donc en meeting à Nantes hier. Alors Michel Hourvoy, mise au pas, entre guillemets, de la fonction publique, un classique qu'on peut retrouver quand même.
C'est aberrant et dangereux parce que c'est du Trump hein, dans le texte. Tout ce qui ne représente pas le peuple est à discréditer d'urgence et de préférence. Non, je pense que c'est un discours. Elle a d'ailleurs un peu modéré aujourd'hui parce que il y a peut-être aussi des fonctionnaires parmi son électorat.
Enfin, on l'a vu surtout dans les sondages. On voit que ça commence.
Voilà. Donc là, on aborde la phase où tout ça devient contradictoire et où c'est plus difficile de progresser. Non, mais il n'empêche que c'est dangereux parce que c'est un discours qu'on entend dans tous les partis européens qui sont sur des positions idéologiques voisines. Et c'est un discours qui prétend amener le peuple à combattre les élites. Et dans les élites, on met des gens qui sont aussi le peuple. Je suis désolé, mais les fonctionnaires, c'est aussi le peuple. L'administration, c'est le peuple. Les journalistes, c'est aussi du peuple. Enfin bon, voilà. Donc je pense que mettre les Français les uns contre les autres, c'est une méthode absolument détestable. On a besoin de tout le contraire.
Aurélie Filippetti, sur ce que vient de dire Marine Le Pen, là. C'est-à-dire, aujourd'hui, en gros, on les connaît, hein, en gros, ceux qui, aujourd'hui, nous poursuivent, et si on arrive au pouvoir, on sait ce qu'on pourrait faire.
Mais il faut mettre des mots sur ce type de propos et sur cette idéologie. Ce type de propos, c'est du fascisme.
Ah, vous dites...
C'est du fascisme, c'est-à-dire que Madame Le Pen dit, hier, dans son meeting, qu'elle va exiger des fonctionnaires qu'il prête allégeance au Front National si jamais elle arrive au pouvoir.
Alors ils disent quand même ça veut dire la France, hein.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Ça veut dire que ce qu'elle propose, c'est un système fasciste. Donc, je pèse mes mots en disant cela. Je ne fais pas de comparaison historique excessive. C'est simplement la définition de ce qu'est un système fasciste.
François Lorcival.
Quand le garde des Sceaux actuel, Jean-Jacques Urvoas, intervient certes ce matin sur votre antenne, mais hier dans le journal du dimanche, et qu'il dit qu'il ne voit aucune raison qu'il y ait une trêve judiciaire pendant cette campagne présidentielle, pensez-vous qu'il y ait là le respect de la séparation des pouvoirs?
Mais ça serait le contraire qui serait, inquiétant.
Vous estimez que le fait que le garde des Sceaux souscrive et en quelque sorte encourage l'intervention des juges, des magistrats dans la campagne présidentielle.
Non. Il n'y a aucun encouragement.
Il n'y a pas mise en cause de la séparation des pouvoirs.
Il n'y a aucun encouragement. Ce propos-là, on lui demande si il ne faudrait pas qu'il intervienne lui pour faire une pause pour que les affaires judiciaires cessent pendant la campagne présidentielle. Là, il y aurait une intervention de l'exécutif pour suspendre le judiciaire le temps d'une campaine présidentielle.
Et surtout, rappelons que cette trêve républicaine n'est pas inscrite. Hein.
Mais encore une fois, le principe de la démocratie. Mais relisons Montesquieu, Tocqueville, etc. La démocratie, c'est quoi? C'est la séparation des pouvoirs. Donc le pouvoir judiciaire doit être totalement indépendant du pouvoir exécutif, ce qui est absolument le cas depuis 5 ans. Oui. Et donc le pouvoir judiciaire décide de sa propre souveraineté de poursuivre ou non certaines affaires.
Nicolas Framont.
Je trouve ça tout à fait légitime à l'approche d'une campagne présidentielle où des gens risquent potentiellement d'avoir l'immunité, qu'on examine de plus près. Au contraire, ça me semble logique qu'on intensifie, et j'ajouterais que dans le cas de Marine Le Pen, pour moi, il y a une énorme contradiction. C'est quand même quelqu'un qui demande de la fermeté face à tout type de délinquance, qui par principe est du côté de la police, comme elle l'a dit le 12 février, et qui là, tout d'un coup, veut s'abstraire de la justice. Moi, ça me choque. Et parlons de patriotisme, est-ce que c'est une attitude patriote? Enfin, je ne comprends pas. Du coup, effectivement, quand elle demande aux juges de démontrer leur patriotisme, ce serait montrer leur allégeance au Front National. Mais c'est sûrement pas quelque chose de cohérent avec sa vision ferme. Là, il me semble qu'elle fait preuve d'un laxisme envers elle-même et qui est assez typique du Front National.
Allez, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie, va s'occuper des fonctions d'Axel Lemaire, démissionnaire. La secrétaire d'État au numérique et à l'innovation quitte le gouvernement pour rejoindre Benoît Hamon dans sa campagne. Dans un communiqué, le président Hollande remercie Axel Lemaire pour l'action accomplie au service du développement de la communauté française numérique. Un an de prison avec sursis pour les 7 prévenus jugés pour des saccages à Juvisy-sur-Orge. Le tribunal correctionnel d'Evry vient de rendre son jugement. Ils ont tous 18 ou 19 ans et sont accusés d'avoir vandalisé tout un quartier il y a un mois et demi. Dégradation d'une vingtaine de voitures à coups de barre de fer, d'un hall d'immeuble. Puis les prévenus sont entrés dans un appartement et ont menacé un couple et son bébé. À Mossoul, les forces irakiennes reprennent un pont stratégique sur le Tigre. 9e jour de l'offensive pour reprendre la totalité de la ville du nord de l'Irak à Daesh. La prise de contrôle de ce pont va permettre d'attaquer les derniers quartiers encore contrôlés par le groupe État islamique dans l'ouest de Mossoul. Les Français sont de moins en moins nombreux à penser que leur porte-monnaie est plus fournie que celui de leurs parents. C'est une étude de l'INSEE publiée ce soir qui nous l'apprend. Seuls 54% des 25-66 ans estiment que leur situation financière s'est améliorée depuis leur adolescence. C'est un recul de 6 points par rapport à 2005, avant donc la crise de 2008.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir la députée de Moselle et porte-parole de Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, également Michel Urvoas de Ouest-France, le sociologue Nicolas Framont et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Ça aurait pu être le moment poétique de la campagne « L'accord du Moai bleu ». Mais non, voilà, le Moai, vous savez, ces incroyables statues de l'île de Pâques et qui, elles aussi, se sont engagées dans une improbable union de la gauche le temps d'un soir. Le Moai bleu, c'est le nom du restaurant chilien où se sont retrouvés Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon vendredi soir. Toute discrétion. Hein. Mélenchon avait revêtu un poncho, persuadé ainsi qu'on ne le reconnaîtrait pas, mais bon, ça a été raté. Benoît Hamon l'a confirmé donc hier, chacun ira de son côté pour la présidentielle. Et un mois après être sorti vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire, ça y est, il semble enfin parti en campagne, Benoît Hamon.
Jean-Luc Mélenchon a décidé d'être candidat jusqu'au bout. J'aurais préféré qu'on se rassemble autour de ma candidature. Je considère aujourd'hui que ma place ma place est au centre de la gauche. Vous me le reconnaîtrez.
Pardon, précisément, vous lui avez demandé vendredi soir de vous retirer.
Très franchement, et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il était candidat. Je lui ai dit que j'étais candidat. On a parlé ensuite de fond. On a eu un entretien très sérieux.
Et lui vous a demandé de vous retirer?
Non, il m'a pas demandé de me retirer.
Voilà, Benoît Hamon, ce matin avec Patrick Cohen sur France Inter. Juste avant de parler avec Aurélie Fipetti, Michel Urvoy, ça va donc faire près d'un mois, hein, quand même, le 29 février, que Benoît Hamon est sorti vainqueur de la primaire de gauche. Est-ce qu'il s'est pas un peu perdu dans les accords entre Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, alors que les autres faisaient campagne?
C'est sûr que c'est un peu compliqué pour lui, parce que je pense que l'accord avec Yannick Jadot ne rapporte objectivement pas grand-chose, mais en revanche, il peut lui coûter, parce que ça crée quelques désagréments de la part de ceux que, prenons l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, tous les socialistes, par exemple, qui ont soutenu ce projet et qui voient cet accord, ils sont un petit peu en porte-à-faux aujourd'hui. Donc ça lui complique la vie. On pourrait prendre plusieurs exemples. Et avec Jean-Luc Mélenchon, il me semble qu'on l'a dit ici par le passé, personne n'a jamais cru qu'il y aurait un accord, pour une raison très simple. Jean-Luc Mélenchon dit, on ne va pas faire avec les gens qui ont voté la loi travail ou qui ont voté le CICE ou qui ont voté les lois sécurité, puisqu'ils se représentent, le contraire de ce qu'ils ont fait pendant le quinquennat. Mmh. Donc, c'est un appel à la cohérence qu'il a lancé, y compris dans nos colonnes Ouest-France ce matin, en disant à Benoît Hamon, choisis ton socialisme.
C'est ça. Alors justement, Aurélie Fipetti, c'est quand même la question qu'on s'est tous posée. Pourquoi finalement Benoît Hamon a-t-il pris autant de temps avec Jean-Luc Mélenchon alors qu'on savait dès le début que cet accord ne se ferait pas? Et Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il a joué avec Benoît Hamon également.
Non, mais même s'il n'y a pas d'accord d'appareil, ce sera la responsabilité des électeurs de dire s'ils veulent qu'il y ait un candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ça, c'est dans le secret de l'isoloir, dans la conscience de chacun, que ça va se jouer.
Donc Benoît Hamon aurait pu se retirer pour Jean-Luc Mélenchon?
Benoît Hamon, considérer que Benoît Hamon est un candidat qui ne s'est pas, par exemple, battu contre la loi travail ou contre la déchéance de nationalité, bon, c'est tout simplement faire fi de la réalité. Donc, et les électeurs de gauche le savent bien, et notamment les électeurs communistes. J'entendais des appels au rassemblement émanant d'Olivier d'Artigol, d'élus communistes qui sont sur le terrain et qui sont partout en France et qui n'ont pas envie d'avoir à choisir entre la droite et l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle.
Nicolas Framont, est-ce que vous avez imaginé Jean-Luc Mélenchon se dire d'accord, Benoît, tu passes devant et je te suis?
Non, pas du tout. Je pense qu'il s'agit là d'une discussion sur la redéfinition de ce qu'est la gauche. Or, on a quand même, malgré tout ce qu'on a dit, deux visions qui sont différentes, deux types de personnes qui sont différentes, et surtout des majorités qui sont différentes. Et il faut bien voir que sur des questions comme la question européenne, par exemple, il n'y a pas de convergence. Et peut-être qu'il n'y a pas de convergence possible. Et il s'agit pour Mélenchon de reprendre avec la France insoumise le leadership de la gauche et d'en faire un mouvement de transformation sociale.
C'est son but premier, ça.
Oui, c'est son but. Alors, du coup, ça semblait complètement fou d'abandonner pour retenter une union de la gauche, pour retenter la gauche plurielle, modèle qui l'estime, lui, être responsable de la désaffection des gens et des classes populaires pour la gauche. Donc, évidemment, qu'il ne voulait pas reproduire le même schéma, ça me semble un petit peu logique.
Oui, Aurélie Fipetti, c'est ça, finalement?
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu... Ce dont les gens de gauche ont envie, c'est qu'il y ait une volonté de rassemblement. Et moi, ce que j'entends partout, c'est des appels à la responsabilité des élus et des chefs et des différents candidats. Il y a eu ce rassemblement avec les écologistes. C'est historique, parce que ça fait quand même 40 ans que les Verts présentaient à chaque fois un candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est historique, et c'est sur des idées, c'est sur un projet, c'est sur un programme. Donc, simplement, maintenant, ça n'est pas possible avec Jean-Luc Mélenchon, mais encore une fois, son électorat, lui, est libre.
Juste une question, l'IFPIT, parce que c'est vrai que aujourd'hui, les militants Europe Écologie Les Verts ont voté pour cet accord.
Largement.
Voilà, pour se retirer
très
de la présidentielle.
Largement.
Est-ce que vous seriez prêt à faire un vote au sein du Parti Socialiste pour savoir si tout le monde accepte cet accord?
Il n'y aurait aucun problème.
Parce que comme l'a dit Michel Orval, on l'a vu, il y a beaucoup de gens aussi. Il y a certains qui disent...
Non, mais il n'y aurait aucun problème. Je ne vois pas qui serait contre cet accord. Mm. Personne ne serait contre cet accord. Ça serait totalement absurde. C'est toujours... Il y a toujours deux ou trois mauvais coucheurs qui vont dire « Ah, mais attention, parce que ceci, cela, le nucléaire... » Enfin, mais enfin, c'est vraiment minime.
Oui, c'est ça, Michel Orval.
C'est mauvais coucheur. Non, à propos de... Non, mais l'accord, il est assez amusant quand même. Savez-vous qu'il y a 7502 personnes, c'est pas une foule, le peuple écologique, très énorme, quoi. Ouais, ouais. 7502 personnes qui avaient voté pour Yannick Jadot comme candidat. Et il y en a 7502 qui ont exactement le même nombre qui ont voté pour l'alliance avec
Benoît
Hamon.
Ils sont cohérents.
Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais ils sont très cohérents. Ils votent pour l'un une fois et contre l'un l'autre fois.
Non, puisque Yannick Jadot souhaitait cet accord. Donc voilà. C'est cohérent.
On va continuer à parler de la gauche. Dans un instant, on parlera également, on ira faire un petit tour au salon de l'agriculture. Pourquoi tout le monde y défile, mais personne n'en parle. Voilà la suite à venir dans les informés de France Info.
Attention, attention. Corum est un placement immobilier, donc un placement à long terme qui n'est pas liquide immédiatement. Et évidemment, capital et revenus ne sont pas garantis. Toute la documentation est sur corum.fr. Voilà, c'est dit. Sinon, c'est quand même l'opportunité de placer votre argent dans l'immobilier à partir de 1060 euros tout frais inclus, de toucher vos revenus tous les mois et d'investir dans toute la zone euro. Autre chose, la petite voix ?
Rien, tout a été dit.
Bon, j'aime mieux ça.
Corum, l'immobilier sans l'immobilité. Corum.fr.
Corum, Visa SCPI délivré par l'AMF, géré par Corum Asset Management.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Attention aux vagues, le littoral atlantique est en vigilance orange. On attend de fortes vagues, des risques de submersion importants au moment des pleines mers, en fin de nuit prochaine et en fin de journée de demain. Les pluies, elles, continuent leur route vers l'est. On les retrouvera demain matin des Vosges aux Alpes, avec de la neige sur le relief. Partout ailleurs, ce sera très agité, des averses fréquentes, parfois de l'orage, du grésil, du vent fort, jusqu'à 70 à 90 km à l'heure, 100 à 110 près de l'océan. L'après-midi, les averses les plus musclées s'étendront du nord-est aux Alpes. La neige s'abaissera entre 600 et 1000 mètres. De la neige aussi pour les Pyrénées, vers 1200 mètres. Ailleurs, ça restera instable, mais avec moins d'averses, plus d'éclaircies et même de belles éclaircies de la Vendée vers la Gironde. Ça baissera côté thermomètre, seulement 7 degrés à Nancy, 9 à Paris, 12 à Nantes, 13 à Lyon et Toulouse. Encore 15 à 18 degrés dans le sud-est.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir, attention aux vagues. 7 départements du littoral atlantique, du Finistère jusqu'aux Pyrénées atlantiques sont en alerte orange pour un risque de submersion dans la journée de demain mardi. La houle pourrait atteindre jusqu'à 8 mètres par endroit. L'alerte durera de 4h du matin la nuit dernière jusqu'à 21h demain soir. Premier déplacement commun pour Benoît Hamon et son nouveau soutien Yannick Jadot. Dans un restaurant McDonald's à Paris, gare de l'Est, lieu symbolique à leurs yeux de la lutte sociale pour l'environnement et contre l'évasion fiscale. 54 milliards de dollars, c'est la hausse des dépenses militaires que Donald Trump s'apprête à demander au Congrès américain. Une hausse de 9%. En échange, le nouveau président prévoit des coupes drastiques dans tous les autres départements et notamment une réduction sérieuse de l'aide internationale fournie par les États-Unis. À New York, pour France Info, Charlotte Alix.
Donald Trump s'était engagé à renforcer l'armée de manière spectaculaire. Il promettait, pas plus tard que ce matin, une hausse historique des dépenses militaires. 54 milliards de dollars d'augmentation, ce serait effectivement historique, puisque cela représenterait une hausse de près de 10% du budget de la défense, un budget qui tourne autour de 600 millions de dollars par an. Ces 54 milliards, Donald Trump prévoit d'aller les chercher ailleurs dans le gouvernement. Des coupes drastiques sont envisagées, notamment dans les agences comme l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, mais également dans d'autres ministère comme celui des Affaires étrangères. Sans donner de détails, la Maison-Blanche fait ainsi savoir que l'aide internationale sera largement revue à la baisse, conformément aux promesses de Donald Trump de faire passer l'Amérique d'abord. Reste que ce budget, qui sera formellement présenté au Congrès le mois prochain, doit obtenir le feu vert des élus. Les négociations vont bientôt pouvoir commencer. New York, Charlotte Alix, France Info.
En Irak, les forces loyalistes engagées dans la reconquête de l'ouest de Mossoul, dernier grand bastion de l'État islamique dans le pays, se sont emparées aujourd'hui d'un pont sur le fleuve Tigre. Une fois réparé ou remplacé, l'ouvrage leur permettrait d'effectuer de la jonction avec les troupes qui ont pris l'est de la ville de Mossoul, deuxième plus grande ville d'Irak. Du football et Bastia qui change d'entraîneur, le club avant-dernier de Ligue 1 veut tenter d'éviter la relégation. Bastia qui appelle donc à la rescousse le portugais Rui Almeida, sans expérience parmi l'élite. Il entraînait jusqu'à présent le Red Star, équipe de Ligue 2. à la place donc de l'enfant du club, l'enfant du pays, François Cicolini. Et puis Joe Wilfried Tsonga, de retour dans le top 10 mondial. Sa victoire à Marseille hier lors du tournoi de l'Open 13 lui a fait gagner au total 4 places au classement ATP qui a été publié aujourd'hui. Le tennisman Manso pointe désormais donc au 7e rang. Il est 20h et quasiment 33 minutes sur France Info. Dans une seconde, la suite et la fin des informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, ils pétillent carrément de 1000 actualités. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la députée de Moselle et porte-parole de Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, également Michel Urvois de Ouest-France, le sociologue Nicolas Framont, j'ai cité tout à l'heure votre revue Frustration, et dans deux semaines, vous avez un nouveau livre, vous avez beaucoup d'actualités, hein, Nicolas Framont, et en fait, c'est marrant parce que c'est pile dans l'actualité, puisque ça s'appelle Les candidats du système, sociologie du conflit d'intérêts en politique. On peut dire que vous tombez bien là, en ce moment, non ?
Oui, l'actualité est plutôt en rapport avec ça, mais là, au-delà des affaires, il s'agit de voir des logiques qui sont lourdes, hein, et qui sont sur un temps long, et qui vont au-delà des simples histoires de Pénélope, etc.
Vous analysez toutes les candidatures ? Tous les candidats ?
Alors, j'ai regardé du côté... c'était avant la primaire du Parti Socialiste, donc je n'ai pas regardé celle de Hamon, même si j'en parle de temps en temps, mais il s'agit surtout des Fillon, Le Pen, et de quelques grandes figures du Parti Socialiste depuis qu'il est au pouvoir.
Voilà, et ça sort donc les candidats du système sociologie du conflit d'intérêts en politique, les Bordelot éditions. Et également François Dorcival de Valeurs Actuelles. Alors justement, François Dorcival, nous parlions de la gauche juste avant d'écouter le journal. Vous, aujourd'hui, Benoît Hamon, vous pensez que ça y est, il peut enfin faire campagne, débarrasser de toutes ces... finalement de politique, voilà, véritablement.
On espère qu'il va faire campagne, parce que s'il fait campagne, les autres pourront faire campagne aussi. Et ce sera intéressant parce que, au fond, nous avons deux gauches là, les deux gauches qui ont dîné ensemble.
Au Moai Bleu.
Voilà.
Celle de
Jean-Luc Mélenchon et celle de Benoît Hamon, qui sont quand même proches sur beaucoup, beaucoup de sujets.
Oui.
Et il y en a une troisième, quand même, celle de Emmanuel Macron, dont on ne parle plus. Et il est vrai qu'on n'en parle pas comme la gauche, à cause de son accord avec François Bayrou. Ce qui est intéressant dans l'accord de François Bayrou, c'est que François Bayrou ne va plus pouvoir faire à la gauche, et en particulier à son candidat Emmanuel Macron, le procès concernant la dette, le procès concernant l'emploi, concernant les pauvres, etc. Toutes choses qui faisaient sa personnalité et son rôle unique dans le décor français. Et effectivement, donc, on se retrouve avec ces trois gauches. La question, c'est qui sera au second tour.
Et quand vous entendez ça, justement, Rudy, pour vous, c'est une troisième gauche, Emmanuel Macron ?
Eh oui. Non, mais c'est pas la gauche.
Enfin, c'est pas la gauche ?
François Bayrou, il soutenait Alain Juppé. Il s'apprêtait à soutenir François Fillon s'il n'y avait pas eu des affaires.
Même, vous avez François Drugy au lieu de Yannick Jadot. Vous avez Gérard Collomb.
On est dans le centre droit, c'est tout simplement. Et donc, un rassemblement au centre droit, ça a toujours existé. Maintenant, on va voir si ça nourrit, si ça enrichit le projet et le programme d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que le grand plaidoyer de François Bayrou pour la transparence de la vie politique, contre les conflits d'intérêts, justement, pour une révolution institutionnelle, tout ça tombe complètement à l'eau, puisqu'Emmanuel Macron fait tout le contraire. Il refuse d'être transparent sur ses donateurs, il a une vision extrêmement césariste de la Ve République, très concentrée sur sa personnalité, personne. Donc c'est le contraire de ce que défendait François Bayrou en termes de valeurs démocratiques.
À propos d'Emmanuel Macron, on apprenait qu'un des députés de Paris, Christophe Caresch, un très proche d'Emmanuel Valls, rejoignait Emmanuel Macron. Lui, alors, il critique justement le Parti Socialiste. En fait, il dit Benoît Hamon va amener le parti à se radicaliser, à se déporter vers une gauche mouvementée, je cite ces termes, qui ne sera pas en capacité d'arriver au pouvoir. Demain, il va y avoir une réunion de ce qu'on appelle les réformistes du PS, plutôt proche d'Emmanuel Valls. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui pourraient aujourd'hui davantage pencher vers aujourd'hui Emmanuel Macron et vous empêcher ce rassemblement du PS.
Non, parce que d'abord, Manuel Valls a dit très clairement qu'il se rangeait derrière la candidature de Benoît Hamon qui a gagné la primaire et qu'il était respectueux, lui, du processus des primaires dans lequel il s'est engagé. Hein. Bon, il a perdu, mais il soutient le vainqueur, Benoît Hamon. Donc, les gens qui, les quelques-uns, parce qu'ils ne sont pas nombreux, qui choisissent de rejoindre Emmanuel Macron, eh bien, ils ne peuvent plus se réclamer d'une quelconque proximité avec Manuel Valls. Ce sont des démarches individuelles. Mais on nous avait annoncé une vague, quasiment un tsunami ou une hémorragie. Bon, bah, ce sont des petites gouttelettes.
Nicolas Framont.
Oui, il y a une citation intéressante, figurez-vous, à propos du phénomène Macron, qui dit « Il y a là une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois par plusieurs grands intérêts financiers qui ne se contentent pas d'avoir le pouvoir économique, mais qui veulent avoir aussi le pouvoir politique. » C'est de Bayrou, cette citation.
Il dénonçait l'oligarchie.
Et c'était très intéressant, et moi j'étais très content de Bayrou à ce moment-là, et je vois qu'il le rejoint, alors je ne sais plus quoi penser. Et donc pour moi, vraiment, dire que Macron est un candidat de gauche, enfin dans ce cas-là, ce terme déjà fort dévoyé ne veut vraiment plus rien dire. C'est quand même quelqu'un qui veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, qui effectivement a des accointances avec les grands noms du secteur privé, etc. Je vois vraiment pas. Je pense que, vous voyez, les gens qui partent comme ça, c'était des gens bon qui avaient viré à droite depuis un bon moment au PS et qui rejoignent Macron pour pouvoir s'assumer sans trop avoir l'air à droite. C'est une aubaine pour eux, moralement.
Alors Michel Urvois, là
vous voyez, on dit Emmanuel Macron a des ralliements, mais Benoît Hamon, il a le soutien cette semaine de grandes figures comme Jean Jouzel, un grand climatologue, prix Nobel de la paix, qui travaillait avec Nicolas Hulot, de Éric de Montgolfier, un ancien juge magistrat dont tout le monde se souvient, qui est maintenant à la retraite et qui peut donc s'engager pour justement la moralisation de la vie politique. Donc ces gens, ces personnalités fortes de la société civile, elles étoffent sa campagne.
Mais vous voyez, c'est ça par qui exemple, fait sa Emmanuel spécificité. Macron, il a le directeur de campagne de Nicolas Hulot aussi, vous voyez.
Jean Jouzel, il est prix Nobel.
Bien sûr.
Et il est climatologue. C'est pas un technocrate.
Une chose, Michel Urvois, on parle alors, soi-disant, des petites gouttes d'eau pour Emmanuel Macron, mais il se murmure en ce moment que certains ministres, là, auraient également l'oreille d'Emmanuel Macron. Et un qui est très populaire, c'est Jean-Yves Le Drian. Est-ce que, aujourd'hui, à votre avis, Jean-Yves Le Drian pourrait être une prise de guerre d'Emmanuel Macron?
Je ne sais pas si ça se passe tout à fait comme ça. Je sais que la question est posée. Je sais que Jean-Yves Le Drian se la pose aussi. Il a à choisir entre la présidence, enfin au terme du quinquennat, entre la présidence de la région Bretagne et éventuellement, enfin une hypothétique fonction dans un futur gouvernement de centre gauche ou de centre droit, selon Aurélie Filippetti. C'est pas une affaire faite du tout. Je pense que ça se passe pas comme ça. Aurélie Filippetti le disait tout à l'heure, c'est les électeurs qui vont décider. Ben je peux vous assurer que si Emmanuel Macron est au second tour, c'est là que les choses se passeront. C'est pas maintenant qu'il va y avoir les ralliements des figures connues. C'est l'électeur, c'est les sondages d'abord, c'est le vote ensuite, et puis c'est là que ça se passera si ça doit se passer.
Donc vous dites rendez-vous le 23 avril.
Mais oui,
au soir, bien sûr. Allez, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Elle quitte le gouvernement pour se consacrer à la campagne de Benoît Hamon. La démission d'Axel Lemaire, qui était depuis 2014 secrétaire d'État chargé du numérique et de l'innovation. Axel Lemaire sera chargé de ces deux thèmes dans la campagne du candidat socialiste. J'ai fait mon choix, je ne peux pas tout faire. Voilà ce qu'elle déclare ce soir au micro de France Info. L'ADN de trois membres de la famille Troidec retrouvé à Orvault dans la banlieue nantaise, celle du père, de la mère et du fils, mais pas celui de la fille. Les enquêteurs ont analysé les traces de sang découvertes dans le pavillon familial. La famille est disparue depuis le 16 février. Et la police s'intéresse notamment à la personnalité du fils, décrit comme fragile psychologiquement et dont la voiture a disparu. Une information judiciaire vient d'être ouverte. Jean-Marie Le Pen condamné à 5000 euros d'amende pour avoir qualifié la présence de rhum d'urticante et d'odorante à Nice. C'était en 2013, condamnation en appel pour provocation à la haine et à la discrimination. Il est urgent de développer de nouveaux antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé liste 12 familles de bactéries pour les risques que font peser leur résistance aux traitements actuels. En septembre, une étude britannique affirmait que les bactéries résistantes pourraient tuer jusqu'à 10 millions de personnes par an d'ici 2050, soit autant que le cancer. Et puis alerte météo aux vagues submersion demain dans 7 départements du littoral ouest de la France, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous allons partir à la porte de Versailles maintenant à Paris, puisque quand on voit les candidats à l'Élysée défiler au salon de l'agriculture, on peut remercier les vaches de se laisser tâter la croupe, sinon ce serait à nous les électeurs qui viendraient caresser le pelage. Bref, tradition oblige, c'est parti pour le traditionnel défilé devant animaux, un moment toujours attendu dans une campagne. Benoît Hamon ira jeudi, Marine Le Pen ça sera demain mardi, Emmanuel Macron mercredi, tout comme François Fillon. Et petite anecdote, voilà, ça ne plaît pas cette visite mercredi, à Christine Boutin. Alors non pas qu'elle craigne un mauvais accueil pour François Fillon, non, les raisons seraient d'ordre religieuse, puisque mercredi est celui des cendres, ça ne lui plaît pas. Elle encourage donc Fillon à s'y rendre mardi pour Mardi Gras. Voilà, ça c'est tout. Christine, en tout cas. Donc une petite anecdote qui montre le côté stratégique de cette visite, importante dans l'image, mais dans les faits, eh bien les candidats n'en feraient pas assez, selon la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Et c'est également ce que dit un éleveur de moutons rencontré dans les allées du salon de l'agriculture.
Son successeur, on attend qu'il négocie des bonnes choses à la PAC, parce que bon, on peut pas dire qu'ils ont été mauvais, ils peuvent peut-être pas faire mieux, mais ils sont pas terribles. Là, 5 ans où les agriculteurs n'ont pas leur subvention qui devait arriver, les jeunes qui n'ont pas de trésorerie, ben, ils sont au bord de la faillite. Beaucoup de jeunes qui se sont installés depuis les 3 dernières années, encore 2 ans et c'est fini. Ils plient leur exploitation.
Voilà, parole d'éleveur de moutons au sein de l'agriculture. François Orsival, juste avant, petite parenthèse, pourquoi finalement toujours cette visite? On a l'impression que c'est toujours très traditionnel, on s'attache toujours à un modèle. Et pourtant, on voit qu'il y a de moins en moins d'hommes et de femmes politiques issus de ce milieu-là. Donc, beaucoup d'agriculteurs disent que c'est aussi pour ça qu'ils ne le comprennent pas. Voilà, oui. Finalement, ça fait partie de cette tradition,
tout simplement. Oui, ça fait partie de cette tradition, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie du paysage, etc. Mais une fois qu'on a dit ça...
Est-ce que ça suffit, quoi, en gros ?
C'est une profession qui a perdu des millions de siens et qui est une profession sinistrée. Cette année, vous n'avez pas un éleveur, quel que soit l'animal, qui ne soit en danger... Vous n'avez même plus les céréaliers, parce que tout simplement, notre récolte à nous a été pourrie et que les cours mondiaux sont en chute libre. Et donc, au contraire, il y a beaucoup de céréales à l'extérieur. Donc, cette profession sinistrée s'ajoute le fait que cette PAC a été progressivement entièrement démontée, aménagée.
La politique agricole commune. Vous
parlez. La politique agricole commune, certes défendue par le dernier président de la FNSEA, mais aujourd'hui, on ne sait plus quel est l'avenir de l'agriculture française.
Alors, Aurélie Filippetti, quand vous entendez, vous-même, en tant que femme politique, aujourd'hui, finalement, les agriculteurs, eux, se sentent abandonnés. Des politiques qui disent d'ailleurs qu'on en parle très peu aujourd'hui de l'agriculture. On a traversé une année très difficile. On a dit, il y avait, le lait, les céréales, etc., très violentes. Et eux disent, c'est vrai que dans les différents candidats, de droite comme de gauche, on n'est pas représenté.
Mais c'était très frappant dans les débats des deux primaires, on n'a pas évoqué la question agricole. Et donc ça, c'est aussi une responsabilité d'ailleurs de la presse, puisque les débats étaient organisés comme ça.
Vous pensez que c'est quoi? C'est générationnel même... Est-ce que c'est propre finalement aussi
malheureusement,
de droite comme de gauche?
Il y a aussi de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices en France, on le sait. Mais en même temps, on sait qu'on a besoin plus que jamais d'avoir une indépendance du point de vue agricole. Finalement, l'agriculture, c'est un secteur qui montre bien à la fois les méfaits, les danger de la mondialisation et notamment de la financiarisation des circuits commerciaux. Une tonne de blé aujourd'hui, entre le moment où elle est produite et le moment où elle arrive à son destinataire final, elle a été vendue 300 fois avec des systèmes informatiques, etc. C'est une absurdité. Qui en sont les premières victimes? Les agriculteurs. La détérioration de l'environnement, l'usage intensif et abusif des pesticides, des phytosanitaires, la question de la santé au travail. On sait que ce sont les agriculteurs et leurs familles qui en payent le prix très lourdement, avec des cancers, avec le développement de diabète, de tout un tas de pathologies. Donc c'est pour ça, et c'est là-dessus que Benoît Hamon est vraiment novateur, sur la transition et la transformation de ce modèle-là, économique et agricole, vers quelque chose de plus écologique et vers les circuits courts qui permettent de produire et de consommer au plus proche, justement, des agriculteurs et des producteurs.
Mais Nicolas Framont, voilà, alors l'agriculture biologique, c'est très bien, on est tous contents de manger.
Pas forcément bio.
Mais voyez, c'est que, le problème, c'est que ça concerne très peu encore aujourd'hui.
Non, mais encore très peu. Pardon, je veux juste continuer, parce que pour une fois qu'on peut parler d'agriculture.
Mais oui, oui, non, mais c'est, voilà.
C'est pas seulement le bio, c'est aussi, justement, utiliser moins d'intrants, moins polluer les sols, moins épuiser, justement, les sols, parce que
ça, c'est pas ça qui fait les prix.
Mais les prix, les agriculteurs sont aussi les premières victimes d'un système où après on a des circuits avec des gros producteurs, des entreprises très oligopolistiques. Par exemple, dans le lait, on a vu avec la crise, notamment Lactalis. Voilà. Et donc c'est ça aussi qu'il faut remettre en question, ce modèle de développement là.
Nicolas Framont.
Oui, je voulais quand même dire, c'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit. Quelqu'un dont on a parlé tout à l'heure, qui parle beaucoup d'agriculture, c'est Mélenchon.
Oui.
Il en parle justement. Lui, il en fait un projet de société. C'est-à-dire que c'est pas simplement consommer bio à la marge, même s'il a fait son truc sur le quinoa, etc., on s'en souvient tous, mais c'est faire des réformes structurelles de comment ça se passe, et notamment comment ça se passe par rapport à la concurrence internationale. Et au niveau de son programme, moi j'ai regardé, du coup, avant de venir, les différentes propositions des différents candidats. Ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est le premier livret qu'il a sorti, une sorte de livret d'approfondissement de son programme, c'était sur la question agricole. Et là, on trouve des pistes assez intéressantes, aussi bien au niveau du constat, que du coup, comment y remédier, faire en sorte déjà d'éviter toute cette concurrence internationale, qui ruine des exploitations. Et puis, il faut aussi différencier dans l'agriculture les petites exploitations et les très grandes. Et il faut voir que les agriculteurs, ils sont souvent représentés pas forcément bien. Ils sont représentés par les grands intermédiaires, les grandes exploitations. Je pense aussi que c'est un groupe qui manque de visibilité parce qu'il est aussi très hétérogène.
Alors Michel, il y a quand même juste une question aussi qu'on se pose, parce qu'on en parle souvent dans l'agriculture, dans des termes souvent dramatiques, parce qu'il y a souvent des drames qui nous alertent à chaque fois sur des affaires agricoles. Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est véritablement pour vous un monde aujourd'hui qui se meurt, ou tout simplement, comme le disent certains candidats, dans une évolution ? Voilà. Est-ce que c'est une évolution à laquelle...
L'évolution peut être mortelle pour certains. Non, ce sont des gens qui vivent des situations épouvantables pour la grande majorité d'entre eux, et je sais de quoi je parle dans la région d'où je viens.
En Bretagne.
Tout l'Ouest.
Voilà. Et pourtant, quand on voit les candidats au sein de l'agriculture, tout le monde vante.
Mais ils en parlent beaucoup plus qu'on ne le dit. Dans les projets, il y a beaucoup de choses. Il y a deux difficultés. La première, c'est que l'agriculture, c'est la première politique européenne. Et c'est la PAC a été remise en cause, elle a été libéralisée. On l'a vu en particulier sur le conflit du lait, ce que ça a donné, la fin des quotas. On le savait, on l'avait vu venir. On est dans une Europe qui est à majorité libérale. Donc il faut créer un rapport de force politique au niveau européen si on veut corriger le tir. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau national, il y a des dispositions qui ne sont pas adaptées. Il y a trop de paperasserie, ils ne supportent plus, le monde agricole ne supporte plus ça. Alors, on dirait souvent, c'est lié à Bruxelles, mais Bruxelles, c'est nous, hein. Faut arrêter de dire c'est les autres. Hein. Et il y a une loi de modernisation économique qui existe en France depuis un certain nombre d'années, je crois que c'était sous Sarkozy.
Sarkozy.
Oui, voilà. Et qui est la loi du plus fort, en réalité. Et donc, il faut trouver un modèle législatif qui permettent d'instaurer des protections. Donc il y a des protections au niveau national qu'il faut imaginer, mais pas du protectionnisme, de la régulation qui permette que les paysans gagnent leur vie avec leur boulot.
On va continuer à en parler dans un instant de l'agriculture, notamment aussi de la production, hein, puisque c'est également le sens de l'agriculture. Donc profitons-en, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu'à l'intérieur. La démission d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation. Elle quitte l'exécutif pour se consacrer à la campagne de Benoît Hamon. Et concrètement, Axel Lemaire doit se consacrer à ses thèmes de prédilection, le numérique et les innovations, dans le projet du candidat. Elle était au gouvernement depuis 2014. Ses fonctions vont revenir à Christophe Sirugue, le secrétaire d'État chargé de l'industrie. Les propositions en matière de sécurité du candidat de la droite à la présidentielle. François Fillon veut armer la police municipale dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants et leur attribuer des pouvoirs de police judiciaire. L'ancien Premier ministre souhaite aussi que les policiers municipaux puissent accéder aux fichiers aujourd'hui réservés à la police nationale. Un an de prison avec sursis pour les 7 prévenus jugés pour des saccages à Juvisy-sur-Orge. Le tribunal correctionnel d'Evry rend son jugement ce soir. Ils ont tous 18 ou 19 ans et sont accusés d'avoir vandalisé tout un quartier il y a un mois et demi. La dégradation d'une vingtaine de voitures à coups de barre de fer, d'un hall d'immeuble. Puis les prévenus sont entrés dans un appartement et ont menacé un couple et son bébé. Le Sporting Club de Bastia se sépare de son entraîneur d'un commun accord. François Chicolini quitte le club, remplacé par le Portugais Rui Almeida pour 2 ans et demi. Rui Almeida était jusqu'en décembre l'entraîneur du Red Star, actuellement 16e de Ligue 2.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons agriculture, et c'est vrai, nous sommes un peu comme les candidats finalement, on en parle de l'agriculture quand c'est le salon de l'agriculture. Voilà, nous sommes ce qu'on appelle des journalistes, hein, c'est ça. Donc justement, on parle donc du salon de l'agriculture. Et Nicolas Framont, est-ce que c'est ce que disait Aurélie Fipiti tout à l'heure par rapport aux normes environnementales, est-ce que c'est possible aujourd'hui? On sait souvent que agriculteurs et écologistes se sont souvent affrontés. Sous souvent domaines, on se souvient des manifestations contre Dominique Voynet, par exemple, quand elle était au gouvernement. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de produire toujours finalement autant et de respecter l'environnement?
Il va falloir de toute façon, il faut voir qu'il n'y a pas d'opposition entre d'un côté les intérêts des agriculteurs et de l'autre la conversion écologique. C'est ceux qui en pâtissent le plus, hein. C'est eux qui subissent le plus les pesticides qui vivent dans cet environnement-là. Donc évidemment qu'il y a une grande compatibilité. Alors évidemment, par exemple, le modèle bio, c'est beaucoup d'exigences, notamment en termes de main-d'œuvre. Donc ça demande de repenser complètement notre modèle agricole. Donc évidemment que si on impose aux gens, aux agriculteurs de changer sans faire un accompagnement, sans créer de nouveaux emplois, sans créer une nouvelle politique, sans créer aussi de nouvelles protection. Alors évidemment, ça va être très compliqué, mais il faut pas être dans cette logique-là. En fait, moi, je pense qu'il faut rendre l'agriculture à nouveau désirable et pas quelque chose, là, de le cercle infernal dans lequel on est, où finalement, c'est l'utilisation de pesticides, recevoir des subventions, etc., et ça ne profite à personne.
François Orcival, c'est vrai qu'on parle souvent, quand on vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez mis les deux sujets ensemble, agriculture, Europe. Aujourd'hui, c'est lié. Des gouvernements de droite comme de gauche, aujourd'hui, quand ils ne savent plus quoi dire aux agriculteurs, ils disent de toute façon c'est l'Europe. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que finalement c'est pas un peu facile toujours de dire c'est l'Europe derrière qui va régler ou au contraire
d'abord,
qui vous crée ces problèmes?
Michel le disait tout à l'heure, l'Europe c'est aussi nous.
Bien sûr. Oui.
Et en Europe, pourquoi les Allemands ont-ils réussi à faire de l'agriculture ce qu'elle est devenue en Europe et que nous avons vu le déclin et de cette agriculture française? Il y a bien des motifs. D'où vient l'autorité allemande en Europe et pas l'autorité française? Alors vous dites à juste titre que, bon, transformer l'agriculture en bio, etc. Mais les agriculteurs, ils vivent des revenus qu'ils obtiennent des produits qu'ils vendent. C'est ça d'abord, avant de créer des emplois, avant de créer d'avoir des machines, etc. C'est d'abord le prix qui fait l'éleveur et l'agriculteur.
Alors Aurélie Fipiti, finalement aussi la solution, une des solutions finalement, c'est par l'Europe, finalement, comme beaucoup de sujets aujourd'hui aussi pour les agriculteurs.
Mais oui, bien sûr, mais quand on parlait du démantèlement de la PAC, ça avait été négocié sous la présidence de Nicolas Sarkozy et on en a payé les conséquences, malheureusement. Quand on parle de la transition et de la question des prix et de la soumission des agriculteurs à des prix qu'ils ne fixent finalement pas eux-mêmes et qui sont le fruit des marchés financiers internationaux, mais c'est finalement la spéculation internationale qui a eu des conséquences terribles, aussi bien, on l'a vu au moment de la crise de 2008, la crise des subprimes, que sur la production agricole. Face à cela, il faut encore une fois, redonner de l'autonomie, de l'indépendance en matière alimentaire, favoriser les circuits courts. Ce n'est pas seulement le bio. C'est en gros, on produit local, on est, pour l'agriculteur, fier de son travail, on est fier de ce que l'on produit. C'est quand même désolant quand on entend certains agriculteurs dire « Moi, je me suis converti au bio le jour où j'ai commencé à ne plus oser donner à manger à ma famille de ce que je produisais dans mon champ. » C'est ça qui fait souvent le déclic pour certains agriculteurs. Et puis, il y a la situation sociale. Il y a un tiers des agriculteurs qui sont à 350 euros par mois. Donc, c'est aussi face à cette situation-là qu'on veut, avec Benoît Hamon, créer un revenu universel pour ces gens-là, justement, et pour leurs femmes qui vivent dans des conditions absolument désastreuses parce que souvent, elles n'ont pas de sécurité sociale.
Michel Revoy.
Oui, deux choses. Quand on parle du milieu rural, je pense qu'il faut regarder les choses un peu globalement. François Orcival évoquait les Allemands. Les Allemands, effectivement, s'en sont mieux sortis essentiellement parce qu'ils ont mieux utilisé ce qu'on appelle le second pilier de la PAC, celui qui a permis d'investir, justement, d'utiliser la subvention européenne pour investir, en particulier dans des revenus tirés de l'environnement, la méthanisation, etc.
Toutes les exploitations
allemandes ont une partie de leur revenu, et quelquefois l'essentiel de leur revenu, qui est tiré de ça. Première remarque. Deuxième remarque, il y a des propositions dans les projets qui sont tout à fait intéressantes. Emmanuel Macron a un projet d'investissement en milieu rural. Arnaud Montebourg, vous connaissez bien Aurélie Filippetti, avait dans ses propositions de la primaire un certain nombre de choses qui concernaient le milieu rural, pas uniquement l'agriculture, l'emploi en milieu rural.
Mais c'est dans le programme de Benoît Hamon aussi. Tout ça participe
De la revitalisation du milieu rural et aussi de la santé agricole.
Les Allemands, ils utilisent aussi beaucoup de travailleurs détachés, selon cette fameuse directive européenne qu'il faut absolument transformer.
Allez, ça doit se terminer. Les informés de France Info, merci beaucoup, Aurélie Filippetti, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci à Nicolas Framon. Je rappelle donc votre revue, vous êtes co-rédacteur en chef de Frustration, et votre prochain livre qui sort très bientôt, Les candidats du système sociologique du conflit d'intérêts en politique, c'est chez Le Bordelot Édition. Un petit coup d'œil, Michel Urvoy, la une de Ouest France demain.
Eh bien, on va s'intéresser au compteur Linky, à la fronde qu'il y a contre le plan de développement de ces compteurs, et puis un papier de la situation politique au lendemain du week-end qui s'appelle Clarification au pluriel.
C'est vrai qu'il y en a besoin. François Orcival, cette semaine.
Marine Le Pen, pourquoi, avec tout ce qu'on dit, elle est toujours en tête et à 27%?